champion du monde.
Aujourd'hui, Laurent Bruvier nous raconte la victoire de Frank Vandenbroeck à Liège-Bastogne-Liège.
Le site d'arrivée de Liège-Bastogne-Liège n'est pas ce que l'on peut décrire comme un endroit féerique. Au contraire, à Ans, la ligne est tracée au pied des antennes paraboliques d'un des partenaires de l'épreuve, entre un parking de zoning commercial et un pont d'autoroute. Mais oublions la laideur du lieu pour ne retenir que la beauté de l'exploit ce 18 avril 1999, rue Jean Jaurès. À 24 ans, Frank Vandenbroeck est déjà une star, une icône, un athlète aux qualités hors normes, doté d'une gueule d'ange. Un caractère fort qui aime les défis, un séducteur qui ne laisse personne indifférent. Si son palmarès ne comporte pas encore de monuments, ses résultats et son panache depuis ses débuts témoignent suffisamment de la classe qu'il habite. VDB sur un vélo, c'est le mélange entre l'élégance et la puissance. Alors, quand le public aperçoit sur l'écran géant Vandenbroeck dans son maillot blanc et rouge, en tête dans la côte d'Anse, la dernière difficulté de l'épreuve, une clameur parcourt la ligne d'arrivée. Il est là, à 500 mètres maintenant, assis sur sa selle. VDB se retourne une dernière fois au sommet de la rue Walter-Jamard. Il serre le poing. Les caméras de la télévision captent l'instant. Cette fois, il a compris. Il va remporter Liège-Bastogne-Liège.
Voilà Frank Vandenbroeck, le plus beau moment de toute sa carrière, assurément.
Virage à gauche, il ne reste que 300 mètres. C'est l'ovation du public. La Belgique se cherche un successeur au grand Teddy. Et si c'était lui, ce phénomène dont on parle depuis tant d'années? Presque au ralenti, VDB savoure. Les bras déployés en croix comme le Christ, Frank Vandenbroeck franchit la ligne d'arrivée et remporte la doyenne, sa première grande classique.
C'est un rêve qui se réalise, gagner Liège-Bastogne-Liège. C'est quelque chose dans la carrière d'un coureur. Et puis, dans la façon que je l'ai fait, et après avoir fait Paris-Roubaix, je pense que c'est une prestation assez bien.
Une référence à l'enfer alors que VDB touche au paradis. Depuis le début de la période des classiques, Frank Vandenbroeck est impressionnant. 15 jours plus tôt, il est sans doute le plus fort au départ du Tour des Flandres. Mais une chute dans les derniers kilomètres lui coûte la victoire. Dans la foulée de cette deuxième place, VDB veut s'aligner au départ de Roubaix. Un choix que son manager Alain Bondu ne partage pas. L'enfer du Nord est une course dangereuse et éprouvante physiquement. Pas question de courir le moindre risque pour le boss de Cofidis. Mais VDB est têtu. S'il ne trouve pas une oreille attentive chez Bondu, il n'est pas résigné pour la cause. Il va sonner chez François Migraine, le directeur général de Cofidis. Le charme de VDB opère. Migraine soutient sa demande. Bondu, la ligne à Roubaix.
Je lui ai dit, ok, il y a deux conditions. La première, c'est que tu tombes pas, et la deuxième, c'est que tu gagnes Liège-Bastogne.
Les jours qui suivent Roubaix, où il termine sixième, Franck les passe à récupérer. Il décide de faire l'impasse sur la Flèche Wallonne pour tout miser sur la doyenne. Il a six jours pour gagner son pari. Le jeudi, l'équipe programme une sortie de 3 heures pour aller reconnaître les passages clés de la course. Après 2 heures d'effort, Franck quitte ses coéquipiers prématurément en lançant « Je n'ai pas besoin de m'entraîner plus, de toute façon, dimanche, je gagnerai !» Ce n'est pas de la suffisance, juste l'intime conviction d'un champion en pleine confiance. À l'hôtel que l'équipe Cofidis partage avec d'autres formations, Franck passe pas mal de temps autour du camion atelier de l'équipe Lotto où travaille son père. VDB est méticuleux, il ne veut rien laisser au hasard. Il règle sa selle au millimètre, vérifie la fluidité des roulements, tous les détails comptent. Alors, quand il est approché par un homme qui lui annonce avoir inventé la roue, lui promettant légèreté et rendement avec son innovation carbone, Franck l'invite à venir montrer sa production à l'hôtel. Pour un cycliste, le poids est le premier ennemi à combattre. La rencontre avec le représentant de la société Lightweight est fixée sur le parking de l'hôtel. La scène frôle le surréalisme. Frank Vandenbroeck empoigne la roue et l'observe avant de demander au fabricant si elle est solide. Le concepteur néerlandais n'imagine pas un instant la suite quand il acquiesce. Sous les yeux ébahis de l'assistance, VDB pose la roue au sol et saute dessus les jambes écartées. Le visage du représentant témoigne de sa stupéfaction. La roue en carbone n'a pas bougé. Frank fait monter la paire de roues sur un vélo et va la tester autour de l'hôtel. À son retour, la décision est prise. Il roulera avec ce prototype dimanche. Quand son père lui fait remarquer que c'est risqué, que les roues n'ont pas été testées en course, qu'elles peuvent casser, Franck répond instantanément qu'il prend le risque. Vendredi 16 avril, 48 heures avant la course, le tracé entre Trois-Ponts et Anse est pris d'assaut par la majorité des équipes. Une répétition générale sans adversaire, une reconnaissance du parcours qui permet à chacun de prendre ses points de repère. Dans la côte de Saint-Nicolas, Franck est accompagné de son équipier Steve DeWolf. Et dans les pourcentages les plus élevés de la pente, il lui annonce l'endroit où il attaquera et lâchera Bartoli, une assurance qui fait sourire son équipier. « Il ne faut pas rigoler », lui lance VDB. « Tu verras, dimanche ». Car Franck est certain que s'ils arrivent avec un petit groupe au pied de la côte de Saint-Nicolas, le scénario qu'il a imaginé se produira. Cette déclaration deviendra légendaire. La rumeur rapporte que VDB aurait précisé le numéro de la maison devant laquelle il passerait à l'offensive. De retour à l'hôtel, l'après-midi est consacré à la rencontre avec la presse. Une vingtaine de minutes avant l'heure, l'enfant terrible descend dans le hall d'entrée de l'hôtel où il croise plusieurs visages familiers. Stéphane Thirion, journaliste du soir, Hugo Korowitz, le spécialiste de Hot Newsblatt, ainsi que quelques autres chanceux à qui il demande s'ils sont là pour lui. La conférence de presse débute avec 30 minutes d'avance. Assis dans un divan du lobby, VDB commande un café, un petit serré, un expresso. Souriant, détendu, Vandenbroek répond amicalement à toutes les questions. 30 minutes plus tard, quand le reste des médias arrive, VDB se lève, traverse le lobby et annonce que la conférence de presse est terminée et qu'ils n'ont qu'à demander aux autres journalistes s'ils veulent les informations. Lui remonte se reposer dans sa chambre.
Ça fait toute la semaine qu'il est concentré, qu'il pense à cette course et on voit qu'il l'a préparé du début jusqu'à la fin, à tout point de vue.
Dans sa quête obsessionnelle, tous les détails comptent, comme le confirme Clotilde, sa compagne. L'alimentation est un paramètre qu'il veut maîtriser. VDB ne mange pas à l'hôtel les jours qui précèdent la course. Avec Nico Matan, son ami fidèle, il trouve refuge tous les soirs chez Gianni, le patron d'un restaurant italien dans le centre de la cité ardente. Mozzarella di bufala et pâte, le menu est toujours le même. Mais jamais d'excès, se souvient le patron. Franck passait à peine 2 heures dans le restaurant, jamais plus. Ensuite, il regagnait l'hôtel en bord de Meuse. Le samedi matin, tous les journaux titrent sur l'anecdote de l'attaque préméditée sur le haut de la rue Bordelais. Eddy Merckx en personne juge que Franck parle trop, qu'il ferait mieux de rouler, ce qui fait dire à l'enfant terrible. Serait-il jaloux ? La veille de la course, les coureurs sont attendus pour la présentation au public en début d'après-midi. Le ciel est gris au-dessus du palais des Princes-Évêques. La voiture Cofidis entre dans la cour de l'immense bâtiment. Franck a pris place à l'avant, il a l'air sombre, le visage est fermé, songeur, concentré, déjà sur l'objectif du lendemain. À la descente du podium, il répète rapidement aux journalistes que c'est bien dans Saint-Nicolas, là où il avait dû s'effacer 1 an plus tôt face à Bartoli, qu'il porterait son attaque. Michele Bartoli, le nom est lâché. Le double vainqueur de l'épreuve est l'autre grand favori, le grand rival de VDB dans sa quête. Les relations entre les deux champions ne sont pas excellentes. Le duel avec l'Italien est une course dans la course. Franck n'a pas oublié son échec de 1998. Lâché dans Saint-Nicolas par Michele Bartoli, il veut sa revanche, d'autant plus qu'un autre épisode a attisé sa rancœur. À la fin de l'été précédent, au Grand Prix de Zurich, VDB avait été battu par le même Bartoli après analyse de la photo finish. Une défaite amère pour le jeune loup ambitieux, un revers qu'il n'a jamais digéré au point d'en devenir une obsession. Pour lui, tout était clair, il doit battre Michele Bartoli. Ce dimanche matin, le soleil est au rendez-vous, place Saint-Lambert. Dans l'équipe Cofidis, VDB rassemble ses équipiers. C'est lui qui va se charger du briefing. On aurait dit qu'il avait déjà vu la course, raconte Steve DeWolf. Il m'a désigné pour être dans l'échappée en précisant de ne pas attaquer dès le kilomètre zéro à la sortie de Chaux-Fontaine, mais d'attendre le sommet, 3 kilomètres plus loin. Et c'est effectivement là, à la sortie de Louvigné, que le bon coup est parti. Le scénario se déroule comme prévu. L'équipe Cofidis ne doit pas prendre en charge la poursuite. Steve DeWolf est dans l'échappée. L'animation principale parmi les favoris survient à l'approche du col du Stockeux. Laurent Jalabert, dans son maillot de champion de France, lance l'offensive. Dans son sillage, Stefano Garzelli, un jeune espoir italien de l'équipe Mercatone Uno. En tête du peloton, l'armada Mappé de Bartoli contrôle. À moins de 10 km du pied de la redoute, le groupe de Steve DeWolf est repris. L'équipier de Vandenbroek a déjà beaucoup donné, mais il sait qu'une dernière mission l'attend. Un pacte, scellé l'hiver lors d'un week-end entre équipiers dans les Ardennes. Dans l'ambiance festive, ce soir-là, DeWolf s'est engagé à amener Franck parmi les 10 premiers au pied de la redoute. « Ma ligne d'arrivée était là. J'avais toujours en tête cet accord tacite devant le groupe. Je m'étais engagé, je ne pouvais pas me défiler. » De Wolf protège son leader jusqu'au pied de la côte. À Liège, chacun le sait, la tactique est relativement simple. Quand on est en bonne condition, on économise ses forces jusqu'à la redoute, on se jauge et puis on attaque dans Saint-Nicolas. C'est exactement ce qui va se passer ce 18 avril. Dans les pourcentages les plus élevés, Michele Bartoli, emmené par son équipier Bettini, attaque en tête de course. Derrière, personne ne peut suivre. Quelques secondes s'écoulent avant que Bettini ne passe.
Bartoli qui en remet une, qui se retourne, qui regarde. Vandenbroek est très à l'aise. Vandenbroek attaque. Démarrage superbe. Les deux hommes côte à côte. Personne capable de les suivre.
On va vivre là un des moments qui a fait l'histoire de la classique wallonne. Les deux coureurs sont au coude à coude, debout sur les pédales comme en plein sprint, mais sur les pentes de la redoute. Le combat n'est pas que physique, il est aussi psychologique. Ne pas craquer, tenir, montrer qu'on est le plus fort.
Grand spectacle pour le moment dans la redoute. Vandenbroek qui remet encore une. Et Bartoli qui coince. Vandenbroek en démonstration. 21 ans après José Brouillet, Vandenbroek qui est parti.
En faisant jeu égal avec l'Italien, Vandenbroek a pris l'ascendant psychologique. Car les coureurs savent aussi que celui qui peut dompter la redoute envoie un message fort à ses adversaires. Je ne suis plus un simple candidat à la victoire, je suis désormais un vainqueur potentiel. Ce mano à mano entre le Belge et l'Italien au sommet de la redoute restera une des images fortes de l'édition 99.
Psychologiquement, c'était important de marquer le coup sur la redoute parce que bon, c'est la côte où tout se produit logiquement. Là, j'ai su vraiment que je pouvais gagner, que j'étais le plus fort.
Sur le plateau de Delambreux, VDB se relève. Il sait que la course est encore longue. Le groupe des autres favoris avec Boger, Bartoli ou encore Kamenzin le rejoint. Mais Franck a marqué les esprits. Parmi ces hommes, Peter Farazijn, le dernier équipier de Franck. Il assure un tempo élevé jusqu'au pied de la côte de Saint-Nicolas, le juge de paix de la doyenne.
Boger qui en met une. Alors attention, il faudrait voir ce qui se passe dans la roue de Boger. Et Vandenbroek, c'est Vandenbroek qui vient dans la roue de Boger.
La suite, on la connaît. Frank Vandenbroek, conforté par son attaque dans la redoute, attend l'endroit où la pente est la plus forte. La même où il avait indiqué à son pote De Wolf le vendredi qu'il attaquerait. Mais ce n'est pas Bartoli qui est face à lui, mais Boger.
Vandenbroek va attaquer.
Et attaque de Vandenbroek. Il l'avait promis. Il l'avait dit, il le fait.
Le champion néerlandais ne peut pas suivre un Vandenbroek survolté. La démonstration est parfaite. VDB roule les 5 derniers kilomètres comme un contre-la-montre et se présente au pied de la côte dense avec plus de 30 secondes d'avance dans moins d'un kilomètre 500. C'est l'histoire qui l'attend. Un rendez-vous qu'il ne rate pas. La performance est éblouissante. Même Eddy Merckx est subjugué.
La manière dont il a mené sa course, je crois que c'est 12 sur 10.
À Ploegsteert, la fête se prépare. Les supporters arrivent en masse à l'hostellerie, l'établissement café-restaurant tenu par Chantal et Jean-Jacques, les parents de Franck. Et quand débarque enfin le héros, c'est l'explosion du jour. Cette victoire à Liège-Bastogne-Liège, c'est la récompense de tant d'années de sacrifices et d'investissements. Dans la grande salle, assis à la table centrale, entouré de ses équipiers Steve De Wolf, Peter Farazijn, Bobby Julich et le fidèle Nico Matane, Franck, les cheveux décolorés, la petite barbichette au menton qui lui donne un look de mousquetaire, Franck arbore fièrement le maillot de leader de la Coupe du Monde. Il est officieusement le numéro 1 mondial.
C'est une obligation de venir ici, non, c'est normal pour tous les gens qui m'aiment, pour tous les supporters d'être présents ici.
Le lendemain, la presse spécialisée débarque dans la salle de l'hostellerie pour une conférence de presse rapidement organisée. Les superlatifs succèdent aux louanges, les avis sont unanimes. À Liège, le monde du cyclisme a assisté à une passation de pouvoir. Pour d'aucuns, VDB c'est la grande classe, pour d'autres, le véritable numéro 1 mondial. Le champion d'avenir, devenu le champion du moment. Frank Vandenbroek appartient désormais à la race des seigneurs. Moins de 3 semaines plus tard, VDB est interrogé par la police française pour ses relations avec Bernard Seyn, surnommé Docteur Mabuse. Blanchi, il termine la saison en boulet de canon, décrochant 2 succès retentissants sur les routes de la Vuelta. Ce seront ses 2 dernières victoires professionnelles à 24 ans.
Un jour dans le sport, un podcast de la rédaction des sports de la RTBF, N'hésitez pas à vous abonner ou à commenter cet épisode sur Ovio ou sur toutes les plateformes de podcast.